France Culture, il est midi et demi. C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un accord de principe en Allemagne entre Angela Merkel et le SPD pour un nouveau gouvernement. La chancelière promet même un nouveau départ en Europe. Correspondance dans un instant avec Cyril Sauvageau. Les Tchèques aux urnes pour des présidentielles. Ils doivent choisir entre le président sortant Milos Zeman, pro-russe, anti-immigration, et ses rivaux, plus pro-européens, plus libéraux, suivi de cette campagne avec Marie-Pierre Véraud. La Grèce est touchée par une série de grèves. Dans de nombreux services publics, les syndicats protestent contre une réforme de la loi sur les grèves exigées par les créditeurs du pays. Nous serons en ligne avec Angélique Couronis. En France, la suppression de la taxe d'habitation va-t-elle être compensée par un nouvel impôt? Eh bien non, affirme le ministre de l'économie ce matin, qui recadre un peu sa collègue Jacqueline Gourault, qui, elle, avait évoqué cette possibilité de remplacement. Commentaire politique de Ludovic Piétenu. Et puis ce changement de stratégie pour Facebook, le réseau social modifie la manière dont il va filtrer les messages, les vidéos sur son fil d'actualité. Priorité sera donnée au contenu partagé par la famille et les amis au détriment de ceux qui émanent des marques ou bien des grands médias. Décryptage avec Camille Magnard. L'invité de la séquence interview, Miguel Benassayag, auteur d'un livre intitulé « La singularité du vivant » aux éditions du Pommier. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jasbert.
On poursuit notre réflexion autour du visible entamé à travers les sculptures de l'artiste César, actuellement exposé au Centre Pompidou. On l'aborde maintenant avec un philosophe, Peter Zendi, qui est notre invité. Comment l'espace est saturé d'images, une généalogie du visible contemporain. Il publie Supermarché du visible et c'est d'économie. Il va analyser cinéma à l'appui, la marchandisation générale des images et des vues. On en reparle avec lui dans la deuxième partie de la grande table.
24 heures pour un accord finalement, peut-être sortir aussi de 3 mois et demi de tractations post-électorales. Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont donc parvenus ce matin, après plus de 24 heures de négociations non-stop, à cet accord de principe pour un nouveau gouvernement en Allemagne. Accord qui doit être encore validé par les instances des partis concernés, mais qui devrait permettre finalement à la chancelière de rester au pouvoir. Cyril Sauvageau, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelles sont les grandes lignes du compromis politique qui a finalement été trouvé ?
Eh bien, c'est un compromis, justement, un compromis qui s'efforce donc de donner un peu à chacun pour contenter son électorat. D'un côté, un signe de fermeté côté conservateur sur les questions migratoires. Le sujet qui plombe, hein, Angela Merkel depuis 2 ans, la CDU et la CSU ont obtenu un plafonnement du nombre de réfugiés à 220 000 par an, ainsi qu'un encadrement strict des regroupements familiaux. Et puis, côté social-démocrate, des avancées sur le volet social, thème de campagne de Martin Schulz, plan pour l'éducation, recrutement d'aides-soignants, mise en place d'une retraite de solidarité. La question des retraités pauvres a été, on le sait, un des grands sujets de la campagne. En revanche, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts pour les plus riches, comme le voulait le SPD. Ce matin, les 3 leaders des partis se disent satisfaits du résultat. Résultat qui permet, selon Horst Seehofer, le patron de la CSU bavaroise, d'apporter une réponse à l'inquiétude des électeurs. Des électeurs qui, rappelons-le, ont lourdement sanctionné les partis conservateurs et sociaux-démocrates qui ont récolté en septembre leur plus mauvais résultat depuis des décennies.
Alors, il y a une phrase qui n'a pas échappé, notamment côté français, dans cet accord de compromis. Cette phrase est la suivante. Les partis s'engagent à renforcer et à réformer la zone euro avec la France pour la rendre plus résistante aux crises. C'est un document qui n'entre toutefois pas dans plus de détails sur les propositions qui avaient été faites par le président Macron.
Oui, mais c'est tout de même un signal important. Angela Merkel a dit tout à l'heure en conférence de presse qu'il fallait un nouveau départ pour l'Europe et que le nouveau gouvernement y travaillerait avec la France. La réforme de la zone euro figure en tout premier chapitre dans ce document d'une 30aine de pages avec des pistes concrètes, transformation du mécanisme de stabilité en fonds monétaire européen et mise en place d'un fonds spécifique consacré aux réformes structurelles et à la convergence sociale. Des pistes qui devront être précisées dans un deuxième temps lors de la rédaction du contrat de coalition. Mais le texte témoigne d'une certaine ouverture sur ce sujet, une ouverture qu'on n'attendait pas forcément de la part des conservateurs et d'Angela Merkel.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup en direct de Berlin. Les Tchèques vont se rendre aux urnes à partir de cet après-midi et demain aussi pour des présidentielles. Il faut qu'ils choisissent entre leur président sortant qui s'appelle Milos Zeman, qui est plutôt pro-russe, plutôt anti-immigration, et puis ses rivaux plutôt pro-européens, en tout cas plus libéraux. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour. Bon,
alors populiste contre pro-européen, on retrouve un peu le clivage classique désormais en Europe et particulièrement en Europe centrale.
Et populiste, il est en effet Miloš Zeman, adepte des pouvoirs forts, pro-russe, vous l'avez dit, il estime que l'annexion de la Crimée est un fait accompli, pro-chinois et pro-Trump. Il pourrait notamment emboîter le pas au président américain pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est chez les oubliés qu'il fait recette avec son discours anti-européen, anti-élite et surtout anti-migrants et anti-musulmans. Les partisans du président sortant sont en effet les perdants de la transition qui a suivi la chute du communisme. Ouvriers, retraités, chômeurs, habitants des campagnes et des petites villes, non diplômés, où l'on voit qu'une fois de plus la montée de ce populisme qui effectivement dénonce l'Union européenne et les migrants prospère en fait sur la misère sociale et économique et le rejet de partis traditionnels dans un pays très corrompu. En Tchéquie, comme dans d'autres états de la région, on pourrait parler du PiS en Pologne ou de la Hongrie de Viktor Orban, ce ne sont pas de fait la présence des étrangers. La Tchéquie n'a, disons-le, accueilli quasiment aucun migrant, ou l'Union européenne, dont elle n'a pas eu particulièrement à souffrir, qui alimente le populisme, mais bien ce décrochage social et la misère économique. Premier président élu au suffrage universel en 2013, Miloš Zeman continue à caracoler en tête des sondages pour le premier tour, malgré sa personnalité controversée, problèmes d'alcool récurrents, dérapages fréquents. Rien ne dit cependant qu'il emportera le second tour les 26 et 27 janvier prochains. Il pourrait en effet avoir face à lui un homme au profil radicalement différent, soutenu lui par les milieux d'affaires, les classes urbaines, les diplômés, Jiří Drahoš, libéral, pro-européen, au verbe policé, un chimiste, ancien patron de l'Académie des sciences, âgé de 68 ans, de 5 ans, le cadet de Miloš Zeman. Il est lui favorable à l'ancrage européen de la Tchéquie, à son appartenance à l'OTAN. Il pourrait donc être l'adversaire du président sortant au second tour, s'il arrive toutefois à fédérer un front tout sauf Zeman, mais il est peu connu, manque de l'expérience politique qui pourrait lui assurer le report de voix décisive. En tout cas, on voit bien que ce sont deux Tchéquies qui s'affrontent, celle de l'ancien monde communiste et peut-être du nouveau.
Voilà, et puis les scrutins, donc les bureaux de vote ouvrent dans une heure maintenant en Tchéquie. Merci Marie-Pierre Viraud. La Grèce touchée par une série de grèves dans de nombreux services publics ce matin. Les transports d'Athènes sont fortement perturbés, les hôpitaux fonctionnent au service minimum et les bateaux sont bloqués à quai dans les ports. Les syndicats protestent contre une réforme de la loi sur les grèves exigée par les créditeurs du pays qui prévoit cette réforme qu'une grève pour pouvoir se tenir devra désormais être votée par 50% des membres enregistrés des syndicats. Syndicats contre 20% seulement actuellement. Angélique Coronis, bonjour.
Bonjour, oui, vous l'avez dit, une fois de plus, les Grecs sont dans la rue pour une grève générale. À noter que depuis le début de la crise, c'est quand même la 50e grève générale qui touche le secteur public. Plusieurs de ces grèves ont aussi emporté avec eux, ont mobilisé le secteur privé. Cette réforme de la grève est une réforme exigée depuis le début de la crise par les créanciers et elle est alliée avec la possibilité de licencier plus de 20 à 50 salariés en même temps. C'est ce qu'on appelle les licenciements grippés, qui sont tout à fait interdits encore, en tout cas jusqu'à ce soir, en Grèce. La problématique, selon les syndicats, c'est qu'il y a d'énormes pressions qui vont être faites sur les salariés pour ne pas participer, pour ne pas voter pour la grève. Et d'ailleurs, dans ces conseils d'administration, des gens qui vont voter pour ou contre la grève, les représentants des employeurs ont aussi leur mot à dire. Donc selon les directeurs, les responsables syndicaux, si on vote cette réforme ce soir, et il semblerait qu'elle va être votée, eh bien c'est le droit de grève qui va vraiment être complètement coulé dans le béton. Il n'y aura plus aucune possibilité de faire des grandes grèves qui, de toute façon, selon ceux qui s'opposent, ceux qui sont d'accord avec cette loi, n'amènent rien, puisque malgré ces grèves, il y a quand même eu toutes ces mesures d'austérité qui ont été votées.
Alors la Grèce compte quand même, à partir de l'été prochain, pouvoir se refinancer seule sur les marchés. Ça serait la première fois depuis 9 ans. Est-ce que les Grecs ont quand même le sentiment que tous ces sacrifices demandés au fil des années sont quand même payants au bout du compte?
Ah non, absolument pas. Ah, pas du tout. Il y a un sondage qui fait un peu froid dans le dos. Il a été publié la semaine dernière par le quotidien Ethnos qui demandait aux Grecs quel était leur degré de confiance envers leurs institutions, qu'il s'agisse de la police, de la justice, des médias, des journalistes, du monde politique, des syndicats. Eh bien, la défiance est totale et absolue. Les Grecs n'ont pas plus confiance en leur justice, qu'en leur police, qu'en leur gouvernement, qu'en leur monde politique, qu'en leurs médias, à plus de 65 à 95% ce qui concerne les médias. Donc, les Grecs n'ont confiance en personne, ils n'ont pas confiance dans leurs dirigeants, ils ne croient pas que le pays va sortir sur les marchés en 2018, quand bien même que ce serait le cas, de toute façon l'austérité, elle va continuer. Le tutorat sûr, par exemple, les impôts et les institutions et les privatisations vont continuer jusqu'en 2022. Donc les Grecs ne croient absolument pas à ça. Ils sont vraiment extrêmement... ils ont le moral à zéro. Et pour beaucoup, la seule solution, c'est partir à l'étranger. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 450 000 jeunes qui sont partis.
Angélique Kourounis, merci beaucoup. Vous étiez donc avec nous en direct d'Athènes. Le président américain Donald Trump va rendre public tout à l'heure sa décision de réimposer ou non des sanctions économiques contre l'Iran. Selon des sources proches de la Maison Blanche, il devrait maintenir la levée des sanctions dont bénéficie l'Iran selon l'accord sur le nucléaire de 2015, laissant ainsi donc le texte inchangé pour le moment. Mais le président américain pourrait donner au Congrès des États-Unis et aux pays européens parties prenantes une date limite pour, dit-on à la Maison Blanche, améliorer ce texte. On passe à l'actualité française après la suppression de la taxe d'habitation annoncée. Est-ce qu'il y aura ou non un nouvel impôt ? Eh bien non, affirme ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, peu après que la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, eût évoqué, elle, cette possibilité d'un nouvel impôt plus juste, disait-elle, pour compenser la suppression de cette taxe d'habitation à venir. Pour le député socialiste Luc Carvounas, candidat au poste de premier secrétaire du PS, le président de la République a une obligation de trouver de l'argent et il y aura donc un nouvel impôt.
Aujourd'hui, le formidable coup de com' du président de la République pendant sa campagne, pour qu'il puisse ne pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel, il a une obligation de trouver... De trouver quoi ? Bah, trouver de l'argent. Et l'argent, il l'a pas. Et donc, à partir du moment où on a fait un joli coup de com' en disant d'un côté, on supprime la TH, ce que dit la ministre Gourault, qui est une femme honnête, que je connais bien, je l'ai côtoyée au Sénat, elle a raison. Il faut à un moment donné, le 1 pour 1, 1 euro pour 1 euro que l'État a évoqué, il ne pourra pas le trouver. Donc, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, la taxe d'habitation, certes, elle sera supprimée, mais certes, il y aura un nouvel impôt pour remplir les caisses et permettre aux collectivités l'autonomie fiscale.
Luc Carvounas, voilà, on aura reconnu la petite musique de France Info. C'était donc ce matin chez nos confrères de France Info. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine.
Alors, question, y aura-t-il ou pas un nouvel impôt une fois que cette taxe d'habitation sera supprimée ?
Ce n'est pas une question qui vient d'apparaître au sein du gouvernement. Depuis des mois, ils sont plusieurs à se creuser la tête pour réaliser cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, supprimer la taxe d'habitation pour tous, tout en compensant la perte de recettes pour les collectivités. Rappelons que c'est une des promesses, si ce n'est la promesse qui arrivait en tête dans toutes les enquêtes d'opinion pendant la campagne présidentielle quant aux motivations du vote Macron. Il est donc capital, décisif pour l'exécutif de la concrétiser, et tant pis si sa mise en œuvre a créé de très fortes tensions ces derniers mois entre les élus locaux et le pouvoir parisien. Pour les communes, la taxe d'habitation assure 20% de leurs dépenses de fonctionnement. Et la réflexion dont a fait part hier soir la ministre Jacqueline Gourault, qui passe toutes ses journées à rassurer les collectivités, il n'y a qu'à regarder son agenda des derniers mois, elle ne fait quasiment que cela, allant de congrès d'élus en réunion d'édiles. La réflexion dont elle a fait part hier, c'est ni plus ni moins ce qu'a dit Emmanuel Macron dès le mois de juillet. Il a toujours à sorti la suppression de cette taxe d'habitation, de la promesse d'une refonte de la fiscalité de l'État et des collectivités, d'une révision d'ensemble de la fiscalité locale. Un rapport a même été commandé au mois d'octobre pour un rendu à Matignon au mois d'avril. Et là, vous pouvez laisser aller votre imagination dans ce jeu de bonneteau fiscal. Bruno Le Maire sait que créer un nouvel impôt n'est pas très populaire. Il a donc préféré couper court au risque d'être un peu sec avec sa collègue du gouvernement. Il aurait pu au moins admettre qu'une réflexion était en cours.
Voilà, imagination fiscale. Merci beaucoup Ludovic Piétenu. On passe à ce changement de stratégie pour Facebook. Le réseau social a commencé à modifier la manière dont il filtre les messages, les vidéos sur son fil d'actualité. Priorité va donc être donnée aux contenus qui sont partagés par la famille, par les amis, donc par les plus proches, au détriment du plus lointain, peut-être de ceux des marques ou de ceux des médias. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Antoine.
Peut-être expliquez-nous pourquoi finalement les dirigeants de Facebook prennent-ils cette décision.
Alors si Facebook va mettre en avant, vous l'avez dit, les messages postés par nos proches, eh bien c'est pour notre bien, parce que des études menées par la firme aux 2 milliards d'usagers à travers le monde ont montré que ces photos, ces vidéos, ces textes mis en ligne par notre famille ou nos amis sont source de bien-être. Et Mark Zuckerberg se soucie de notre bien-être. Il l'a dit dans ses vœux pour la nouvelle année, il veut que le temps passé sur son réseau social soit peut-être moins important chaque jour, mais qu'il soit du temps bien dépensé. Voilà pour les bonnes intentions et la bonne résolution de 2018. Il faut dire que l'année 2017 a été marqué pour Facebook par trop d'erreurs, selon son fondateur, accusé d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump, d'avoir été manipulé par les Russes, de véhiculer trop de fausses informations. Mark Zuckerberg reconnaît en quelque sorte que l'outil qu'il a créé le dépasse par ses usages, qu'il faut lever le pied et donner moins de place au contenu public, qu'il soit produit par des entreprises, des médias ou par différents groupes d'influence. Ce que nous dit aussi cette décision de Facebook, eh bien c'est que ses dirigeants ont pleinement conscience de la puissance de leur algorithme pour façonner, selon leur désir, la bulle d'interaction virtuelle autour de nous, utilisateurs 2 milliards donc sur Terre, je vous l'ai dit, avec les responsabilités aussi que cela entraîne. Vous allez donc renouer avec vos proches. La décision a été prise dans la Silicon Valley. Et tant pis si vous aviez l'habitude, par exemple, de trouver sur votre fil personnalisé les articles Facebook de France Culture, ils ne seront plus prioritaires, donc moins visibles. Et d'ailleurs, ça va obliger tous les producteurs de contenu, médias et autres, à revoir complètement leur stratégie de placement sur le réseau social au risque de perdre leur lectorat.
Voilà, il faudra se faire passer pour la famille, si je comprends bien. Merci beaucoup, Camille Manière. Ça nous amène directement à notre invité d'aujourd'hui, le philosophe et psychanalyste Miguel Benassaïac. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre intitulé « La singularité du vivant » aux éditions du Pommier. Bon, ça vous amène au livre un peu indirectement malgré tout. Vous n'avez pas de portable, on le sait. Vous n'êtes donc pas sur Facebook. Vous avez quand même beaucoup d'amis.
J'ai beaucoup d'amis.
Ça vous inspire quoi?
J'ai des amis.
Cette stratégie de Facebook.
Un peu bizarre, des amis en chair et en os. Mais alors que Facebook s'inquiète pour notre bonheur, c'est quand même très rassurant. Ce qui est un tout petit peu peut-être dommage, c'est que ce soit avec un algorithme qui va s'occuper de ça. Alors la délégation comme ça des fonctions, de plus en plus des fonctions éthiques, des fonctions de décision vers des algorithmes, est quelque chose qui part d'une hypothèse aujourd'hui dominante, qui est que la différence entre la machine digitale et les vivants, et l'humain en particulier, est quantitative. C'est-à-dire que il n'y a pas un saut qualitatif, il n'y a pas une différence
ça,
qualitative.
Ça, c'est ce qu'on prétend.
C'est l'hypothèse dominante.
L'hypothèse
dominante dans les laboratoires de
Il n'y a pas de différence donc de nature.
Non, il n'y a pas de différence de nature. Alors moi, je suis encore accepté dans la communauté des chercheurs et des gens qui travaillent là-dessus, tout en étant quand même très hérétique, parce que je prétends qu'il y a une singularité du vivant. Et que la différence, elle est qualitative, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez, avec les logiciels éthiques qu'on veut mettre à la Google Car, par exemple, pour savoir que les logiciels sachent, un algorithme qui sait s'il faut écraser les petits chats ou l'enfant, vous voyez? Alors, c'est rigolo, à ceci près que la macroéconomie, elle est déjà depuis très longtemps entre les mains des algorithmes qui décident de notre vie, etc.
Oui, mais c'est très puissant quand même, parce qu'on se rend compte que ça sera très difficile de dire que des choses ne sont pas prévisibles. Plus l'algorithme a de données, plus il est développé. Alors, qu'est-ce qui va rester dans
ce qui est incroyable, c'est que c'est un boulot des années de recherche et de travail avec mes livres précédents, et celui-ci est un peu un aboutissement. C'est quand même incroyable qu'il faille autant travailler pour dire qu'il y a une singularité du vivant non réductible à l'algorithme. Alors,
comment vous le prouvez?
Il s'agit de montrer quelles sont les quelques invariantes, quels sont les quelques éléments que nous pouvons identifier avec les processus du vivant, qu'eux ne sont pas calculables à terme d'algorithme. C'est pas s'opposer à la technoscience, comme le prétendent certains amoureux des technosciences, etc., technophiles, qui disent, Miguel, il est bien sympa, mais il est bioconservateur. Alors, il ne s'agit pas du tout de s'opposer, il s'agit de comprendre que l'hybridation entre les machines digitales et les vivants est une réalité. On est dans un monde de mutations qui est irréversible. Simplement, il s'agit quand même de comprendre que dans cette hybridation-là, comme on considère que les vivants et la culture n'ont aucune singularité, on les colonise, on les crasse. Alors, tout mon boulot, et une petite minorité comme moi, c'est d'essayer de dire, effectivement, nous sommes là, nous sommes au moment de cette hybridation, mais attention, parce qu'il y a une singularité du vivant. Cette singularité à voir concrètement avec les non-calculables, avec la place de l'aléatoire, avec...
Votre introduction s'appelle « Il y a un corps ». C'est pourquoi l'importance des corps, finalement. C'est ça qui va nous sauver.
Espérons-le. Dans tous les cas, effectivement, disons, si on veut résumer les projets aujourd'hui, la stratégie de la recherche technologique, est dans le dépassement du corps. C'est la nouvelle promesse métaphysique, on va vers une nouvelle vie, une vie sans corps, n'est-ce pas? Alors, ça semble incroyable qu'il faille aujourd'hui dire la vie est sous condition du corps, des corps limités. Et il y a une différence, par exemple, établir entre la médecine de la réparation et la médecine de l'augmentation, par exemple. Et je vous dis, je suis moi-même étonné d'avoir à tant travaillé pour montrer ça. Il y a peu de temps, ils m'ont invité à une rencontre dans laquelle je faisais rencontrer les champions de Go qui a perdu face à AlphaGo. Et la question était une question que mes années de psychiatrie sont revenues. Tout à coup, la question c'était quelle est la différence entre les Chinois et la machine, n'est-ce pas? Alors, on se croirait dans un truc des urgences psychiatriques. Quelle est la différence? Or, aujourd'hui, même les Chinois étaient d'accord. La différence n'est que quantitative, ils disaient. Et il fallait que moi, je viens là un tout petit peu comme les mecs un peu rigolos, à dire non, peut-être la différence entre les Chinois et AlphaGo n'est pas que quantitative, peut-être il y a une singularité qualitative. C'est tout un boulot. Alors c'est tout un boulot. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire en voix haute tout mon bouquin pour vous expliquer. Je ne comprends pas, non ?
On va renvoyer au livre. Peut-être qu'on peut décliner quand même sur ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve quelque chose analogiquement de ce que vous dites dans la vie sociale concrète, collective ?
J'imagine que les auditeurs de France Culture connaissent la différence qu'il y a entre l'agir et le faire. On est dans un monde du faire, de l'efficacité.
Expliquez-nous quand même la différence.
Avec la technologie, il s'est passé la même chose qu'avec l'argent, c'est que Marx va décrire quand il dit « l'argent est devenu sa propre fin, n'est plus un moyen », n'est-ce pas ? La technologie est devenue sa propre fin, c'est-à-dire que la technologie n'est plus au service d'un projet. La technologie, dans sa performance, devient son propre projet, et l'humain et le vivant est incorporé comme des segments disloqués à cette performance technologique. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question à quoi ça sert, n'est-ce pas ? Il y a une exigence de performance. Et on se voit soi-même, on s'évalue soi-même, dans des catégories de la performance, c'est-à-dire qu'on s'algorithmise, n'est-ce pas ? On a un désir d'être transparent, on a un désir d'être calculable, on a horreur de tout ce que soit indésirable, tout ce que soit un peu opaque, n'est-ce pas ? Alors, là-dedans, effectivement, c'est ça les processus un peu dans lesquels la machine, l'artefact, colonise le vivant.
Peter Zendi, peut-être, vous êtes l'invité de la dernière partie pour votre livre « Le supermarché du visible ». Bah, ça fait un écho un peu, malgré tout. Est-ce que vous pouvez vous-même penser, écrire ? Comment vous réagissez ?
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire et à discuter, à commencer par le fait que je pense que la différence entre le vivant et le non-vivant est aussi, peut-être vous en seriez d'accord, est une différence absolument mouvante. Enfin, historiquement, les frontières sont mouvantes, ne cessent de se reconfigurer.
Mais est-ce que vous diriez, vous, qu'il y a cette menace sur le vivant pour rester sur le sujet de Miguel Benassayag ?
Moi, j'essaierais peut-être d'échapper à cette dichotomie entre le vivant et le non-vivant, comme si la frontière entre les deux était précisément stable. Voilà, ce qu'il s'agit de penser, c'est qu'elle se reconfigure sans cesse. Et quant à Facebook, qui était quand même le point de départ de cette discussion, je suis fasciné par l'immense économie de la visibilité qui est mise en jeu là, et le fait que ce qui affleure à la vue, disons, ce qui se donne à voir, ne cesse d'être négocié et renégocié aussi, ce qui est quand même une question incroyable.
On en reparle dans la dernière partie de la grande table pour votre livre, Le supermarché du visible. Miguel Benassayag, comment vous dites que vous apparaissez parfois isolé ou que vous sentez qu'il y a une opinion dominante, finalement même difficile d'intervenir, de parler?
C'est horrible, je me sens très seul.
Comment?
Et par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, la frontière entre les vivants et l'appareil, c'est l'histoire même de l'humanité, toujours est une frontière qui bouge. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut qu'il soit une frontière avec deux côtés. Et ce qui aujourd'hui est mis en cause est l'altérité du vivant. C'est-à-dire le vivant et la culture comme autre de l'algorithme. Si nous ne sommes pas capables, au même moment qu'on développe des algorithmes géniaux, c'est parfait, si on n'est pas capable à la fois de fixer clairement cette altérité, une altérité qui change. Les vivants changent à mesure que la technique change. Ça, c'est toujours comme ça. Mais vraiment, ce qui aujourd'hui est mis en cause, c'est cette altérité. C'est-à-dire, il y a un autre de l'algorithme dont on a du mal à lui donner une statue.
Parce que l'algorithme a une puissance très impressionnante.
Si, mais c'est là où, par exemple, dans mon ancien bouquin sur les cerveaux, par exemple, je suis toujours étonné quand on donne au cerveau seulement la qualité ou la tâche calculative. Or, les cerveaux calculent, c'est sûr. Mais la fonction calculante du cerveau n'est absolument pas la fonction fondamentale du cerveau. Alors, il y a là quelque chose qu'on ignore, on met dans un éclipse. Il y a aussi une question aussi tout bassement financière, c'est-à-dire que si moi je vais montrer les mécanismes de régulation, si je vais montrer que quand même il y a des limites, etc., je vais obtenir beaucoup moins de financement pour la recherche que l'autre qui va vers la promesse transhumaniste de dire « demain on sera immortel, il n'y a pas de limite, etc. » Alors moi je crois qu'il faut quelque chose d'un peu ringard peut-être, il faut un peu de sagesse. Il faut un peu de sagesse dans la recherche pour accepter qu'il y a du non-calculable qui n'est pas de l'obscurantisme. Alors, ce n'est pas le retour du vitalisme, ce n'est pas le retour d'une spiritualité sans limite, c'est la possibilité de penser en termes rationnels cette négativité non soluble en algorithme.
Miguel Benassayag, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette édition. Je rappelle donc le titre de votre livre, La singularité du vivant, et puis un sous-titre, Depuis les domaines du digital et de la biologie moléculaire, on nous annonce que tous les mécanismes biologiques vont enfin être révélés, modélisés, dépassés. Et évidemment, c'est contre cela que vous luttez particulièrement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans ce studio. Un temps généralement nuageux, plutôt doux pour la saison, 5 à 13 degrés. Édition réalisée avec Brice Garcia, 17h, le magazine de la rédaction. Référendum en Nouvelle-Calédonie, la douloureuse tentation de l'indépendance. Reportage Stéphane Robert, réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiffer. À 18h, ce sera Anne Fauquembert pour le prochain journal.